Marie-Thérèse Chevin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez nous parler aujourd'hui du jeûne.
Oui.
Est-ce que vous pouvez auparavant vous représenter peut-être en quelques mots pour les auditeurs de Radio Maria?
Oui, alors donc Marie-Thérèse, avec mon mari Bernard, nous sommes modérateurs de Mère de Miséricorde depuis le mois de juin l'année dernière, donc 2019. Et voilà, alors depuis le mois de septembre, nous animons une série d'émissions. Alors ce ne sont pas toujours les mêmes intervenants, donc accueillir la vie pour présenter les différentes facettes de notre fraternité. Mère de Miséricorde a pour mission d'accueillir la vie en écoutant et en accompagnant des hommes et des femmes qui se posent la question de l'avortement ou qui ont vécu l'expérience douloureuse d'un enfant non-né. En septembre, le père Régis Lollet avait parlé de la dignité de l'être humain, et moi j'avais prolongé au mois d'octobre en parlant donc de cette dignité, puis de l'importance du moyen du jeûne que nous prenons, mais je vais le développer davantage aujourd'hui. En novembre, le père Cathelinet, donc notre père spirituel, nous a expliqué pourquoi notre association porte le nom de Mère de Miséricorde. En janvier, Valérie Ternac a parlé des interventions auprès des jeunes pour leur faire découvrir la beauté inscrite par le Créateur au profond de leur cœur avec Parlez-moi d'amour. En février et mars, Martine et Pierre-Arnaud de Ransard nous ont initiés à l'écoute, car Mère de Miséricorde propose une écoute téléphonique de 9h du matin à 21h le soir tous les jours à son numéro vert 0800 746 966. Alors, on peut retrouver toutes ces émissions par podcast. Cela, donc, cette dernière émission sur l'écoute nous a comme préparé au temps de carême où le Seigneur nous dit « Écoute, écoute Israël, écoute ô mon peuple ». Aujourd'hui, il est donc prévu que je vous parle du jeûne, car toutes les missions de Mère de Miséricorde sont ancrées, enracinées et soutenues par la prière et par le jeûne. Lorsqu'une personne appelle le numéro vert, l'intention est immédiatement transmise à une chaîne de jeûne lorsqu'il s'agit d'un problème d'avortement. Une chaîne de jeûne est constituée de 10 personnes environ qui, à tour de rôle, jour après jour, jeûnent au pain et à l'eau, chacune durant une journée. Il y a en France 300 chaînes de jeûne, donc environ 3 000 jeûneurs. Il y a aussi d'autres intentions liées à la vie qui sont portées par des intercesseurs. Lorsque nous avions programmé cette émission sur le jeûne, nous savions que nous serions en période de carême, proche de la Semaine Sainte, mais nous étions loin de penser que l'actualité du monde serait en connexion si étroite avec notre sujet. Ce temps de confinement que nous vivons ne ressemble-t-il pas à ce temps où Dieu appela Moïse à quitter l'Égypte pour aller au désert? Un espace certes large, mais un lieu de confinement où ils ont quitté leur confort, leurs habitudes, pour apprendre à faire peuple et à tout attendre et recevoir de Dieu. Nous verrons qu'ils ont passé d'une nourriture opulente à la manne du désert, car il y a un lien évident entre la nourriture et le péché. Regardons ce qui se passe au chapitre 2 de la Genèse, dans le deuxième récit de la création. Dieu dit qu'il donne à manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Or, nous voyons qu'Ève, écoutant la suggestion du serpent, prend et mange. Elle prend. Elle ne reçoit plus la nourriture comme un don, mais comme un dû. Et c'est bien là la racine du péché, ce que nous appelons le péché originel, dans lequel s'enracinent tous nos péchés actuels. Il y a à retrouver cette gratitude de ce qui nous est donné par Dieu et qui semble être un dû. Nous, aujourd'hui, nous avons toujours ce qu'il nous faut. Nous pouvons avoir à portée de main toutes sortes de nourritures, de plaisirs, de loisirs, et nous sommes bien tentés de les prendre comme Ève, de manger, de consommer de la nourriture, du plaisir, des loisirs, quand nous voulons, comme nous voulons. Avec cette épreuve de la pandémie du coronavirus, Toute cette spirale a été bloquée net, d'un coup, sans prévenir, pour tous, riches, pauvres, toute race, tout pays. N'y aurait-il pas un appel à entendre? Homme, où es-tu? Mais où cours-tu? Vers quoi cours-tu? De manière brutale et dramatique, nous sommes obligés de nous arrêter de courir et de vivre ce que Dieu proposait au peuple juif en lui proposant le sabbat, le Shabbat. Il y avait déjà eu cet appel pour Abraham, quitte ton pays, ta parenté. Pour Moïse, Dieu l'invite à quitter l'Égypte. Il l'invite à quitter, pourquoi? Pour le retrouver lui, et puis aussi pour se retrouver lui-même, pour se retrouver nous en tant que comme personnellement et ensemble comme un peuple. C'est ce précepte qui avait été donné à la fin du récit, du premier récit de la création. Vous savez, les 7 jours, le septième jour, Dieu créa le Shabbat, un jour où on quitte la productivité pour entrer en relation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Alors arrêtons-nous un instant sur ce récit. Parce qu'il y a un lien entre la manière de vivre le jeûne et ce Shabbat, ce récit, cet appel à nous arrêter. Donc le septième jour, le ciel et la terre furent achevés. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Il le bénit. À travers cet arrêt obligatoire que nous vivons aujourd'hui, nous réapprenons, nous aussi, que nous sommes appelés à bénir, que tout ne nous est pas donné, que nous, tout ne nous est pas dû, pardon, que nous soyons riches ou pauvres. Nous sommes appelés à retrouver ce sens du Shabbat qui pour nous est devenu le dimanche. Nous sommes appelés à bénir, à rendre grâce pour toute chose, pour la vie que nous avons reçue gratuitement. Il y a tant de raisons, il y a 1000 raisons de rendre grâce, même au milieu des plus grandes difficultés. Pour l'eau qui coule de nos robinets, qui ne coule pas dans beaucoup de pays souffrant de sécheresse, pour l'abri que nous pouvons avoir à l'intérieur de notre maison, alors que d'autres vivent dans la rue. Tout cela nous semble normal, naturel. Pour la nourriture quotidienne, même si j'apprends à me contenter de ce que j'ai à la maison, sachant que d'autres ne mangent pas leur faim dans d'autres pays ou à notre porte. La gratitude aussi de vivre alors que d'autres meurent, la gratitude d'être en santé en pensant à d'autres qui sont malades. Et même si je suis malade, la gratitude de me savoir créer et aimer pour l'amour et par amour. Cherchons toutes ces raisons pour lesquelles nous pouvons bénir tout au long de ces jours de confinement. Et Dieu nous sanctifiera. Donc le septième jour, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifiera, il le sanctifia. Voilà, alors c'est une manière, je dirais, positive de voir le confinement, le Shabbat, notre jeûne, parce que nous le voyons souvent du côté de l'interdit. Et d'ailleurs, pour le Shabbat, il y a une série invraisemblable de prescriptions d'interdits. Voilà. Mais on nous demande d'entrer dans la bénédiction. Et le jour du Shabbat, d'ailleurs, au travers de tous ces interdits, tout au long de la journée, le juif est appelé à bénir. Et d'ailleurs, nous reprenons dans la prière de l'offertoire, la présentation du don, cette prière. Baruch Ata Adonai Elohim, tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous as donné ce pain, tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Voilà. Et tout au long du jour, ils bénissent, même on leur a demandé pendant la Shoah, pendant tous les moments d'épreuve, le jour du Shabbat, on ne parle pas de l'épreuve, on rentre dans la bénédiction de Dieu comme pour entrer dans cet apprentissage de ce pourquoi nous sommes créés, c'est-à-dire l'éternité. Alors nous allons nous éclairer encore avec un autre chapitre où on parle du Shabbat dans l'Exode au chapitre 16. Et cet épisode peut nous enseigner aujourd'hui aussi à travers cette expérience de confinement, mais en même temps pour nous, à Mère de Miséricorde, il peut nous enseigner sur le sens du jeûne au pain et à l'eau, puisque nous jeûnons au pain et à l'eau. Dans l'Exode, nous voyons le peuple qui est au désert avec Moïse. Il murmure « Qu'allons-nous boire ?» Et Dieu fit jaillir l'eau du rocher. Et dans le chapitre suivant, donc je ne vais pas tout lire, sinon c'est trop long. Dans le chapitre suivant, ils se mettent à murmurer en disant « Ah, quand nous étions en Égypte, assis auprès des marmites de viande, d'oignons, de concombres, nous mangeons du pain à satiété. » Ils regrettent tout cela. Et ils récriminent en accusant Moïse et Aaron de les avoir amenés dans ce désert pour les faire mourir. Alors le Seigneur intervient et dit à Moïse « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel. Les gens sortiront et en recueilleront chaque jour leur ration. Ce sixième jour, il y aura la double part pour le Shabbat. » Et Moïse parla ainsi au peuple, « Ce soir, vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte. » Alors nous, on peut traduire aujourd'hui, « Je vous ai fait sortir du pays d'esclavage, du travail, du loisir. » Et puis je termine donc avec le texte de l'Exode. Donc Moïse, « Ce soir, vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire du Seigneur. » Il ne dit pas « au matin ». Vous verrez la manne, mais vous verrez la gloire du Seigneur. Donc, quand Dieu donne la manne, ce pain qui descend du ciel, nous pouvons y voir, et nous sommes appelés à y voir, ni plus ni moins, la gloire du Seigneur, la shérina, la présence du Seigneur. Comme Jésus, quand il dit sur la croix, « Père, glorifie ton Fils », enfin avant, dans la prière sacerdotale. Nous disons si souvent et machinalement la prière du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Réapprenons à accueillir avec gratitude notre vie quotidienne, notre travail, nos activités, pour y laisser entrer la bénédiction, la gloire du Seigneur. Jeûner au pain et à l'eau, comme nous le faisons, à Mère de Miséricorde, n'est-ce pas réapprendre à retrouver l'essentiel avec cette gratitude et cette reconnaissance, en l'accueillant comme un don et non comme un dû? Et comment ne pas penser au pain eucharistique dont nous sommes privés en ce moment, et comme pour mieux en apprécier l'essentiel, c'est-à-dire la communion cœur à cœur et corps à corps avec Jésus? Nous y étions peut-être et certainement tellement habitués qu'il est nécessaire d'en être privé un moment pour davantage le désirer. Fini les querelles de rites, communion dans la main, sur la langue, à genoux, debout, non. C'est avec le cœur, avec tout ton désir, que le Seigneur veut que je communie, peu importe la forme. Voilà, donc nous sommes entrés dans cet esprit du Shabbat, cet esprit de bénédiction. Et c'est dans cet esprit-là que nous vous invitons à vivre la journée de jeûne. Ne nous arrêtons pas à l'interdit, je ne peux manger que du pain et ne boire que de l'eau. Alors pourquoi dans la tradition juive il y a une série d'interdits? Parce que nous aussi nous vivons une série d'interdits avec ce confinement, avec le jeûne. Le travail et tout ce qui touche à la production ou à la transformation est proscrit le jour du sabbat. Pas d'achat, pas de transaction, pas de télé, pas d'ordi, pas de jardinage, pas de voyage, pas de bus, pas d'avion. Seuls des déplacements dans un périmètre restreint. Pourquoi? Vous voyez que notre confinement, il est bien moins strict que le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que pendant 6 jours, l'homme est appelé à faire tout cela, à coopérer à la création. Mais le 7e jour, Dieu fait entrer l'homme dans un état de repos, de bénédiction, de contemplation de l'œuvre créée. Cela peut nous sembler facile de nous mettre en repos. Or, nous voyons que cela ne l'est pas tant que ça. Au début, c'est un peu grisant car nous arrêtons de courir, nous éclusons la fatigue. En réalité, en y regardant de près, le repos est l'activité la moins naturelle dans l'univers. L'univers, l'existence elle-même est une machine géante en mouvement perpétuel. Tout ce qui s'y trouve, des galaxies jusqu'aux atomes, ne cesse de tournoyer, de vibrer, de se diviser, de se multiplier, de se déconstruire et de se reconstruire, de pousser et de s'élancer. Jamais notre cœur ne cesse de battre, notre cerveau de cogiter, notre âme d'aspirer. Gagner sa vie est un effort, s'occuper de sa famille est un effort, partir en vacances même suppose une organisation. Alors, se reposer. Cette notion de repos est elle-même une création de Dieu. Si Dieu n'avait pas créé le septième jour, jamais il n'y aurait eu de repos. Pendant le Shabbat, il est demandé d'interrompre toute activité créatrice précisément pour contempler la création et son créateur. Lorsqu'on continue à créer, on ne se repose pas. Nos amis juifs nous disent que le Shabbat est un avant-goût du monde futur, je vous l'ai dit tout à l'heure, une indication du temps où le monde ne connaîtra aucun mal et où la présence de Dieu sera manifeste dans le monde. Je prends donc un texte que j'ai trouvé sur Internet sur le Shabbat. La tranquillité du Shabbat n'est qu'un avant-goût de la véritable paix, une expérience du divin. Un Midrash dit « La liberté que nous éprouvons durant le Shabbat, donc la liberté, est une allusion au temps où nous serons totalement libres, libérés de l'exil, libérés du mal en nous-mêmes et libérés du mal dans le monde. C'est un avant-goût, je le dis texto dans le Midrash, c'est un avant-goût de la rédemption. » Voilà, c'est la fin de la citation. Nous voyons avec stupéfaction que les interdits conduisent à une liberté plus grande. Ne pas produire, ne pas se déplacer plus loin que le périmètre autorisé. Voilà, c'est ce que ça nous rappelle aussi les interdits actuels. Mais pour le Shabbat, il ne s'agit pas d'interdire pour interdire, mais pour bénir et sanctifier. Le Shabbat est réservé à deux activités, la vie familiale et la vie avec Dieu. Cette expérience que nous vivons aujourd'hui nous appelle à renouer les liens avec la famille, à retrouver le sens de la gratuité, de la bénédiction et à nous tourner fondamentalement vers Dieu. Et c'est ce que nous vivons, que nous essayons de vivre aussi pendant la journée de jeûne. Nous étions un peu comme des taupes, le nez au sol, tournées vers la productivité, produire toujours plus, avoir plus de choses, consommer, voyager, profiter, sans trop plus savoir pourquoi ni pour qui. Et là, tout s'arrête. Une autre image est celle d'un verre dans lequel il y a de l'eau. L'eau, c'est le symbole de la vie. Et cette eau, quand elle est en mouvement continuel, elle peut être trouble. Surtout s'il y a des poussières, s'il y a un peu de saleté dedans. Tant que vous bougez le verre, l'eau reste trouble. Quand vous posez le verre et que vous arrêtez de bouger et de remuer, c'est un peu comme quand on se met à prier, on arrête toute activité, l'eau redevient claire. La boue ou l'argile se sépare de l'eau. Tout se décante. C'est à cette expérience-là que nous sommes appelés aujourd'hui et de la même manière pour le jeûne. Avec le jeûne, je lâche mes attaches. Les émotions, les passions, qui sont comme des particules de terre, de poussière, je les laisse se poser calmement. Par l'oraison, par la vie sacramentelle, lorsque cela est possible. Nous constatons tellement que quand nous nous posons, quand nous allons au désert avec Jésus, quand nous prenons un temps de recul, de prière et d'adoration, nous voyons de manière claire ces attaches, ces particules de poussière. Tant qu'on court, on ne voit rien de net. Mais quand je m'arrête, Quand ces particules de poussière se posent petit à petit, nous faisons cette expérience de découvrir, par exemple, le jour de jeûne, que j'ai envie de choses qu'habituellement me laissent en paix. Je découvre mes attaches. Or, le Seigneur veut me sauver de ces attaches. Quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte tes habitudes, quitte, lâche, offre. C'est cela le jeûne. Ce n'est pas d'abord une prouesse, mais c'est un appel du cœur de Dieu. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Depuis la création du septième jour du Shabbat, Dieu nous y appelle. Écoute, homme, oh, écoute, quitte, contemple, mais pose-toi, arrête de courir, de consommer, de manger pour te remplir. J'ai toujours été admirative de l'attitude de Mère Teresa lorsque ses sœurs lui disaient qu'elles étaient débordées de travail, hein, tellement débordées qu'elles trouvaient qu'il valait mieux se remettre au travail plus vite et réduire l'heure d'adoration du matin où elles devaient avoir l'impression de perdre leur temps. Or, Mère Teresa ne propose pas cela du tout. Elle dit que plus il y a de travail, plus il faut prendre le temps pour prier. Pour se recentrer sur Jésus, tout recevoir de lui, nous recevoir nous-mêmes de lui, pour nous laisser habiter par lui et brûler par son amour. En fait, il est le premier pauvre à la porte de mon cœur. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai chez toi et nous ferons notre demeure en toi. Il y a cet équilibre à garder, ce recentrage continuel à opérer. Il existe, nous le savons, mille et une œuvres caritatives. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis vide, creuse, ça ne sert à rien. Je peux courir le monde entier, ça ne servira à rien, en profondeur du moins. Pour que l'œuvre puisse atteindre son but, il est nécessaire que je laisse toute la place à Dieu, en fait que je laisse Dieu faire les choses en moi, que je le laisse agir en moi. Voilà l'équilibre à trouver. M'attacher au Christ, me laisser remplir de sa présence, ou plutôt me connecter à sa présence en moi. Dans Saint Jean, il dit « Hors de moi », au chapitre 15, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien. C'est fort ce mot, rien. Cela peut se comprendre à deux degrés. Ce rien, vous ne pouvez rien faire. D'un point de vue littéral, si Dieu ne me donnait pas la vie, le mouvement et l'être, je ne serais rien. Je ne serais capable non seulement de ne rien faire, mais tout simplement, je ne serais même pas un grain de poussière. Je retournerais au néant. Et c'est ce qui nous a été rappelé le mercredi des cendres. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je suis invitée à me reconnaître créature et non maître de ma propre vie. À revenir humblement mais amoureusement à ma place. Je ne suis rien et tu es tout. Toute seule, sans Dieu, je ne suis rien, pas même un grain de poussière. Le deuxième degré à comprendre pour cette phrase « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire », c'est « Mais avec moi, avec Dieu, avec sa présence en moi, me laissant relier à lui avec des liens d'amour, alors lui, il peut tout faire. » En fait, il faut que lui grandisse et que moi, je diminue, comme le dit Jean-Baptiste. C'est un peu retrouver cette attitude d'Adam et Ève au paradis terrestre avant le péché, avant cette captation. Cette captation où Ève a mangé seule pour jouir, pour prendre pour soi. Cela a conduit, on le voit bien, à l'accusation d'Adam en disant « c'est elle qui m'a donné à manger », puis ça a engendré la peur, ils se sont cachés. C'est toute l'escalade du péché qui les a entraînés ensuite vers la jalousie, Et nous voyons là un peu la racine de tous les péchés, de tous les vices. Je regarde les autres, je me compare à eux. Alors, naît l'envie, le meurtre, etc. Nous voyons que lorsque Dieu est chassé du cœur de l'homme, le désordre s'installe. Pendant le temps du carême, trois démarches nous sont proposées. La prière, le jeûne et l'aumône. En fait, ces trois démarches nous proposent de tout remettre en ordre, de remettre les choses à leur juste place, précisément comme pour le Shabbat. Pourquoi suis-je là? Où vais-je? Je suis une créature et non le maître de ma vie. Je suis appelée à me laisser aimer. Il faut pour cela que je regarde celui qui m'aime, que je vois son regard, sa personne, que je l'écoute. C'est toute l'attitude de la prière, c'est une véritable ascèse, car il faut durer. Le jeûne me recentre à nouveau sur cet essentiel. Je me redis pourquoi je suis là, où vais-je? La nourriture terrestre ne me rassasie pas, ni les plaisirs de la terre. Observez aujourd'hui, pas pendant le temps de confinement, mais en temps normal, l'intérêt croissant dans notre société occidentale, par exemple pour les émissions culinaires, les concours, c'est sans fin. Il faut que ce soit toujours meilleur, qu'il y en ait toujours plus, et au final, l'homme n'est jamais rassasié. Et on pourrait dire la même chose avec l'appétit sexuel, c'est le même processus. Et là, Dieu nous appelle, « Homme, où es-tu? Adam, où es-tu ?» Ce jeûne qui nous est proposé, ce temps de confinement, ce Shabbat, c'est ce temps de grâce où on arrête de courir, de se remplir de nourriture et de mille et une activités. Je me pose, je m'arrête de faire comme d'habitude, me remettre dans la bonne direction. Toi seul, ô Dieu, peux rassasier mon âme. J'ai soif de toi. Après toi, l'envie, ma chair, comme une terre altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. C'est pour cela que le prophète Isaïe fustige après ceux qui jeûnent pour la forme, comme un précepte à accomplir. Écoutons-le, il dit, « Le jour où vous jeûnez, vous savez faire vos affaires, vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en dispute et en querelle. Ce n'est pas comme ça que vous ferez entendre votre voix là-haut. Appelles-tu cela un jour agréable au Seigneur ?» Voilà, la fine pointe du texte se trouve là. À la fin, un jour agréable au Seigneur, le jour de jeûne, temps de confinement, le dimanche, c'est un jour agréable au Seigneur. Pour Dieu, c'est de retrouver Adam qui fait son bonheur, Adam, homme. Je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Voilà le jeûne que Dieu veut retrouver sa place de créateur, mais aussi de rédempteur. Il veut me sortir de mes impasses, de mes désirs mal ajustés. Il veut surtout me rassasier de sa présence et de son amour. Et lorsque je serai rempli de lui, alors je peux courir vers mes frères avec Jésus. Lui en moi et moi en lui. Et il fera de grandes choses que souvent je ne vois pas mais que les autres voient. Que nos jours de jeûne soient des jours agréables, Seigneur, que Dieu agrée. Voilà. Alors j'aurais un petit exercice pratique à vous proposer. Donc un petit sujet d'actualité que je voudrais, à partir duquel je voudrais vous interpeller. Il y a deux jours, Olivier Véran, notre ministre de la Santé, s'inquiétait suite à une interpellation d'une sénatrice de l'Oise, Madame Rossignol, qu'il y ait une réduction du recours à l'IVG depuis le confinement. Donc c'est une inquiétude pour lui. Il a dit, donc il a répondu qu'il est hors de question que l'épidémie du Covid-19 restreigne le droit à l'avortement dans notre pays. Il dit aussi que plusieurs propositions sont à l'étude et vont être mises en œuvre dans les plus brefs délais. Donc, durant l'épidémie, il souhaite que l'avortement médicamenteux soit facilité, qu'il y ait une plus grande utilisation des téléconsultations, que le délai normalement prévu de 7 semaines, donc pour avoir recours à l'IVG, soit porté à 9 semaines. Et il a demandé que, malgré donc tous les hôpitaux qui sont pleins, que tous les recours à l'IVG instrumentaux, c'est-à-dire dans les hôpitaux, soient maintenus. Et puis, ce qui est surtout, qui nous inquiète beaucoup, beaucoup, c'est que pour les personnes qui sont enceintes, qui n'ont pas pu avoir recours à l'avortement ou d'une manière ou d'une autre, puisse avoir, après le temps de confinement, un recours tardif. Et donc là, il disait, il y a une cause qui permet de pratiquer l'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse, qui ne tombe pas sous le coup des délais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de délai, on peut interrompre la grossesse jusqu'à la fin du 9e mois, pour des raisons de détresse psychosociale. Et donc, il envisage qu'après le confinement, il envisage cette possibilité qu'une jeune femme qui, sans avoir un problème médical particulier, puisse utiliser cette raison de détresse psychosociale, que serait le confinement, pour pratiquer l'avortement jusqu'à la fin du 9e mois. Alors évidemment, ça nous fait froid dans le dos. Et on peut évidemment faire des pétitions, etc., etc. Mais je pense que, et je vous y appelle tous, que l'arme la plus puissante contre le mal, c'est vraiment la prière et le jeûne. C'est Jésus qui nous le dit. Et donc, je vous appelle tous à jeûner pour cette raison-là. Le Vendredi Saint, dans la grande prière universelle, il y en a une où on nous demande de prier pour nos gouvernants. Donc, prions avec Jésus sur la croix qui souffre pour cette intention.
Eh bien, soyez assurés que
Si vous le
les
ressentez dans
auditeurs
votre cœur. Oui.
ont entendu cette intention de prière et vont vraiment l'apporter. Marie-Thérèse, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Roselyne. Roselyne, c'est à vous.
Bonjour.
Bonjour, Roselyne.
Bonjour, bonjour et bonjour à tous. Voilà, j'ai entendu votre émission et j'ai été vraiment estomaquée, catastrophée par la décision du ministre là pour les avortements.
Alors,
Et
ce
je
n'est
me
pas encore une
disais,
décision, c'est
c'est pas
une,
encore,
c'est une,
c'est une
oui, c'est à
proposition,
l'étude, mais enfin
c'est à
bon,
l'étude.
voilà,
Bon,
oui.
voilà. Alors, comme c'est à l'étude, bien sûr, il y a le jeûne et la prière. Et j'ai entendu justement hier soir sur Internet qu'il y a une vingtaine de pays qui se sont consacrés au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie à Fatima, des
Oui,
pays dans le monde entier, une vingtaine. Et je me disais qu'en communion avec, c'est tous les évêques du pays en communion qui ont fait ça. Je ne sais pas comment ils ont fait, par des moyens technologiques ou modernes, sans doute. Et je me disais, si la France faisait ça, peut-être ça permettrait une action de Dieu pour empêcher cette.
Alors, j'ai vu effectivement qu'il y a un certain nombre d'évêques en France qui l'ont déjà fait. Je ne sais
Oui.
pas exactement le nombre,
Oui.
mais voilà, c'est sûr. Utilisons tous les moyens spirituels qui sont à notre portée. C'est vrai que la consécration de la France au cœur immaculé de Marie est une demande qui date de fort longtemps. Et n'hésitons pas à interpeller effectivement nos prêtres, nos évêques pour le faire.
Oui, merci.
Je vous en prie. Bonne
Merci,
journée.
Roselyne.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, justement, par rapport à ce projet du gouvernement d'étendre l'avortement, peut-être une information qui peut être capitale pour des jeunes femmes qui sont enceintes, qui se sentent en détresse. Est-ce que l'accueil téléphonique et l'écoute de Mère de Miséricorde fonctionnent toujours pendant le confinement?
Ah oui, plus que jamais. Donc au 0800 746 966, donc de 9h du matin à 21h le soir, même le dimanche.
Voilà, je pense que c'est important justement de le redire. Il n'y a pas que cette solution, enfin solution entre guillemets, proposée par les dirigeants. Il y a aussi l'écoute de Mère de Miséricorde et justement, vous êtes en mesure justement d'aider ces jeunes femmes en détresse à y voir plus clair et à prendre la bonne décision.
Et même si ce ne sont pas les jeunes femmes elles-mêmes, toute personne qui entend parler autour d'elle d'un problème de ce genre, donc qui dans ses connaissances, peut faire elle-même un appel à Mère de Miséricorde pour proposer qu'on jeûne. Vous voyez, quand on voit quelqu'un qui va mal, ben, on met en œuvre toutes les actions, on va aux urgences, etc. Puis quand on entend qu'une femme attend un bébé et qu'elle hésite à le garder, ben, pourquoi n'y aurait-il pas la même urgence SOS, quoi? Donc mettons tout en œuvre, allons à l'urgence au cœur de Dieu et au cœur de ce qu'il nous propose pour sauver cette vie. C'est vraiment, cette vie a autant de valeur que le roi de Belgique ou enfin voilà que toute autre personne, ce tout petit embryon. Et c'est vraiment ça qu'il faut, c'est ce dont il faut avoir conscience. Chacun de nous peut téléphoner pour une intention Mère de Miséricorde, même si ça ne nous concerne pas directement. Il y a des témoignages extraordinaires de personnes qui ont appelé pour quelqu'un d'autre et où l'enfant a été sauvé.
Bonjour,
Allô?
on vous écoute. Oui,
Oui,
bonjour.
voilà. Donc je disais que je prenais l'émission qui passait en cours et j'étais très intéressée parce que moi, je travaille dans le social et je rencontre des jeunes filles qui sont dans cette détresse-là. Et là, je rencontre des jeunes qui sont dans cette détresse-là et parfois, nous, on n'a que la proposition de les orienter vers un avortement si elles le désirent. Et celles qui ne le désirent pas sont complètement perdues et on ne sait pas vraiment comment faire et elles finissent par avorter. C'est vraiment, moi, ça me fait très mal. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un numéro auquel on peut appeler? Moi, j'avais appelé une jeune fille, j'avais accompagné comme ça une jeune fille, mais finalement, c'était tellement compliqué de pouvoir trouver un endroit pour pouvoir l'accueillir parce que, elle ne voulait pas rester chez ses parents. Les parents ne l'avaient pas rejetée, mais elle ne voulait pas rester chez les parents. Et vraiment, dans ce désarroi, elle s'est retrouvée dans cette situation. Et aujourd'hui, elle est toujours triste. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut appeler Mère des Miséricordes. Et voilà, c'est là que j'appelle.
Alors, on peut soit écrire par contact@mèredemiséricorde.org, mais il est préférable de téléphoner au 0800 746 966. Ces
D'accord.
personnes qui sont donc de l'autre côté, au bout du fil, ont toute une liste d'associations, d'organismes, de maisons d'accueil, de région par région, voyez, donc
D'accord.
de lieux où on peut les aider, ou matériellement, psychologiquement, si, enfin, selon le besoin, quoi.
D'accord, vous accueillez
Donc
aussi des
zéro.
mineurs?
Oui, bien sûr. Ah bah, beaucoup de
D'accord.
mineurs, oui, tout à fait.
D'accord. D'accord.
Donc c'est
D'accord.
vous-même qui pouvez appeler pour. Vous pouvez vous-même appeler, vous n'avez pas besoin de demander à la jeune fille, c'est toujours
D'accord.
préférable évidemment, mais c'est un peu délicat.
Mais en général, c'est moi-même qui voulais le faire, hein. C'est parce que je ne
Oui,
le savais pas, donc
bah,
du coup,
oui,
j'étais
tout
aussi perdue. C'est moi qui
à
cherchais, qui voulais le faire, qui voulais l'aider, mais là, je viens d'apprendre, c'est une bonne nouvelle, comme ça, la prochaine fois. Et puis, je pense que je peux aussi mettre votre numéro devant mon bureau, parce que nous, chez
absolument.
nous, parfois, on fait des formations aux jeunes filles, et dernièrement, j'étais vraiment très choquée quand une jeune fille a posé la question en disant, si je suis enceinte que mes parents ne veulent pas de moi, qui me rejettent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et l'intervenante qui était là a dit, ben, vous nous rencontrer et on pourra vous aider à avorter. Moi, j'étais tellement choquée. Je dis, la jeune fille ne vous a pas dit qu'elle veut avorter. Elle dit, si je suis enceinte que les parents ne veulent pas de moi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et vous lui proposez directement l'avortement. Et puis moi, j'ai pris la parole, je leur ai dit, la loi dit que vous êtes aussi libre de garder votre grossesse et que si vous êtes libre de garder votre grossesse, que vous êtes perdue, sachez qu'il y a des organismes qui peuvent vous aider, mais seulement moi, je ne connais pas les organismes. Et voilà, donc on va faire des recherches et vraiment, Dieu merci, je tombe sur vous et je pense que la prochaine fois, je pourrai donner ce numéro aux jeunes filles ou bien moi-même, je peux faire aussi la démarche auprès de vous.
Très bien, merci beaucoup. Ouais,
c'est quand même dommage qu'on leur propose directement ça, c'est quand même dommage.
Ah bah, c'est clair.
Merci beaucoup.
D'accord, merci beaucoup. Hein.
Merci, je vous en prie. Au revoir.
Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup, Marie-Thérèse Chevin, pour ce temps que vous nous avez accordé. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose en conclusion?
Eh bien, entrons dans à la fois dans la joie du cœur de Dieu, tout en étant douloureux, mais dans cette bénédiction que Dieu veut nous donner du haut de la croix et de son cœur, de cet amour qu'il veut répandre. Voilà. Aidons-le.
Merci beaucoup et puis à bientôt, Marie-Thérèse Chevin. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.